Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi, c'est Rosane, et ici, je donne la parole à des sportives et sportifs passionnés, aux parcours différents, qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport, ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants, faits pour vous inspirer. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de 50 nuances de sport. Alors avant de vous parler d'épisode qui va suivre, je tiens à remercier Emma pour son tip réalisé sur ma page Tipeee, la plateforme de financement participatif que j'utilise, et pour son message. C'est toujours un bonheur de voir que mon contenu vous plaît, que ça vous inspire, et forcément, ça me motive à continuer. Alors aujourd'hui, comme chaque deuxième jeudi du mois, on se retrouve avec un nouvel épisode. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Benjamin. Benjamin, c'est un passionné de sport depuis son enfance, que la vie a décidé de mettre à l'épreuve. Né avec une malformation au niveau du pied, son état de santé se dégrade très nettement à l'âge adulte, ce qui l'amène à prendre une décision importante, celle de se faire amputer pour enfin revivre, selon ses termes. Durant notre échange, Ben nous raconte ce à quoi il a dû renoncer au fur et à mesure que son état de santé se dégradait, et comment cette amputation a paradoxalement marqué son retour au sport, à ce qu'il fait vibrer depuis tout petit. Une passion qui l'a accompagné tout au long de cette étape de vie, que ce soit au travers de ses valeurs, la combativité, la progressivité, et le partage, entre autres, qu'au travers des perspectives que la rééducation lui promettait. Celle de remarcher, puis de recourir, jusqu'à même participer à de grands événements sportifs. Un témoignage empreint d'espoir, de résilience et d'humanité, c'est ce que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à le noter ainsi qu'à mettre un petit commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide grandement. Très bonne écoute.
Donc bonjour Ben.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc une invitation à distance, enregistrée, puisque à la base notre rencontre était prévue la veille de l'annonce du confinement et que bon, par précaution on l'a annulée parce qu'il y avait quelques kilomètres à faire. Donc finalement bon, la situation s'éternisant un petit peu, on va enregistrer cet épisode à distance parce que bah, j'ai vraiment envie de faire découvrir ton histoire aux auditeurs du podcast. Donc merci vraiment d'avoir accepté mon invitation et dans ce contexte particulier. J'aime bien commencer par une question, c'est pas voulu mais à chaque fois je la pose, donc je crois que ça va devenir la question signature du début d'interview. Est-ce que le sport a toujours fait partie de ta vie?
Oui. Mes parents, depuis que je suis né, m'ont partagé les valeurs du sport. Ils m'ont transmis ces valeurs et que ce soit à mes sœurs ou à moi, en fait, je pense que ça nous a forgé, ça nous a appris pas mal de choses sur la vie et ça nous a aidés. Enfin, je vois mes sœurs, elles m'impressionnent dans leur façon de vivre, de ne jamais lâcher. Et pour moi, c'est pas parce qu'on a un handicap que l'on n'est pas fort. Chaque personne a son parcours de vie. Et mon père, ma mère m'impressionnent. Et tous les quatre sont vraiment... ils m'impressionnent. Et dans mon entourage, que ce soit mes proches, mes amis, ma famille... dans leur manière de surmonter en fait les obstacles, je me rends compte que la plupart en fait ont fait du sport ou au moins ont cette mentalité-là par rapport au sport, et que ce soit mes proches ou ma famille en fait m'inspirent par rapport à ça, et je remercie à jamais assez toutes les personnes qui ont rendu ma vie moins compliquée, et je me rends vraiment compte que toutes ces personnes-là en fait c'est des personnes qui ont fait du sport à un moment, et pour moi c'est important. Et pour revenir à ta question, en fait, les valeurs du sport et les différents entraîneurs que j'ai eus depuis petit, j'avais un entraîneur en fait qui était très important pour moi et qui fait partie de la famille, qui s'appelle Ludovic Puccino, qui avait exactement les mêmes valeurs de sport que mon père. Il faisait d'ailleurs souvent du sport avec lui, il s'entendait super bien. Et en fait, c'était surtout les notions de sport partage, sport loisir, sport plaisir. Et maintenant, avec cette nouvelle vie, en fait, je voulais retrouver aussi le sport défi que j'ai pas pu faire pendant plusieurs années. Je trouvais ça vraiment, vraiment important.
Tes parents, tu dis qu'effectivement, et alors, on parle beaucoup de valeurs, mais du coup, concrètement, en termes de sport, tes parents étaient déjà dans le milieu sportif, où ils pratiquaient à côté, ils t'ont partagé leur passion?
Alors, mes parents étaient tous les deux à côté de leur travail. Eux, ils étaient professeurs des écoles.
D'accord.
Et mon père, surtout ma mère, en fait, aime bien regarder le sport. Maintenant, elle fait du yoga et du pilates, mais autrement, c'est plus mon père, le vrai sportif. Ils
de la maison.
s'entraînent 1 à 2 heures par jour. Depuis que je suis petit, j'ai toujours vu s'entraîner 1 à 2 heures par jour. Alors que
En
c'était
faisant
plus
quoi?
pour du loisir. Alors que c'était plus pour du loisir. Bah, il fait de la course à pied, il fait un peu de renforcement musculaire, il a fait beaucoup de basket, beaucoup de tennis. Maintenant, il fait du kayak aussi avec moi, il fait de la natation. Enfin, il fait un peu de tout, c'est un touche-à-tout et c'est ça qui m'a montré depuis que je suis petit.
D'accord. Et tu parlais de tes entraîneurs, donc je suppose que tu as été en club ou que, enfin, en tout cas, tu as été accompagnée et encadrée. C'était pendant ton adolescence, enfance, et c'était sur quel sport du coup?
Enfance et adolescence, enfin j'ai toujours fait du sport en club et puis beaucoup à côté aussi. Mais oui, surtout en fait Ludovic Puissino, c'était surtout au niveau du tennis où en
D'accord.
fait il m'a suivi pendant des années. Et là d'ailleurs quand j'ai refait une course, ma première course à pied, je l'ai faite avec lui et mon père et puis des copains avec qui je faisais du tennis quand j'étais jeune.
Ok, donc ouais, une bonne vie active.
Ouais.
Active en matière de sport. Alors, tu en parles brièvement sans qu'on soit encore rentré dans les détails, mais du handicap. Effectivement, donc on va rentrer un peu plus dans le détail des différentes étapes de ces 3 dernières années à peu près, et justement ton rapport au sport. Est-ce que tu as toujours en fait été en situation de handicap?
Ouais,
Handicap
en
de
fait, je
naissance.
suis. En fait, l'amputation est pas de, enfin, c'est pas dû à mon handicap de naissance. En fait, je suis né avec 2 pieds bovres varusséquins. À ma jambe gauche, ça a été rétabli très vite avec de la kiné. Autrement, à ma jambe droite, j'ai dû subir 2 opérations, une à 4 mois, une à 4 ans. En fait, le pied bovre varusséquin, c'est, bah, moi, mon pied, c'est une malformation au niveau de la du pied. Et donc ma jambe était plus courte, mon pied était bien tordu sur l'intérieur avec le mollet qui était atrophié. Donc j'ai subi, oui, ces 2 opérations après beaucoup 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 de kiné et puis après pendant 20 ans, j'ai eu aucun souci, je faisais plein de sport, j'en faisais bah, comme mon père, 1 à 2 heures par jour. J'en avais besoin pour décharger un peu. Il y avait certains sports enfin, au fur et à mesure, en fait, mes parents me laissaient un peu libre choix, et puis c'était à moi de faire mes propres expériences et de me rendre compte qu'il y avait certaines choses que je ne pouvais pas forcément faire et c'était à moi de m'adapter. En fait, ça a toujours été ça, c'était ouais, faire ma propre expérience et m'adapter après par rapport à ça. Donc pour l'instant, moi, il n'y a rien de nouveau par rapport à l'amputation. C'était pareil, c'est une phase d'adaptation que j'ai toujours appris à faire. Et puis voilà.
Bon, on va en venir à l'épreuve que tu as vécue il y a 3 ans. Donc, tu parlais effectivement de déjà 20 ans, quand même, il a fallu que tu t'adaptes, même si globalement ça allait. Et donc, au bout de 20 ans, tout ça, on va dire, s'est un petit peu dégradé. Ton état de santé s'est dégradé, c'est ça?
Ouais, c'est ça. En fait, bah, depuis ma naissance jusqu'à à peu près mes 23 ans, enfin, depuis mes 4 ans jusqu'à mes 23 ans, j'ai jamais eu aucun souci niveau physique. Et je me suis même dirigé dans le milieu du sport, au niveau du travail. Et en fait, quelques mois après avoir été diplômé, j'ai commencé à avoir des entorses à répétition au niveau de ma jambe où j'avais mon pied bot. Mais pour moi, en fait, je connaissais, enfin, mes parents m'ont quand même appris à connaître mon corps, à être à l'écoute. Et même si ça m'arrivait des fois de faire trop de sport et après de boiter pendant plusieurs semaines ou d'être en béquille, je savais au moins pourquoi à ce moment-là. Alors que là, je savais qu'il y avait quelque chose d'autre. Donc, je suis allé voir mon médecin. Mon médecin, pour lui, c'était, bah, c'est dû à mon pied bot, faut que je lève le pied. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je continuais quand même à avoir des entorses. Ça s'arrangeait un petit peu. Et une nuit, en fait, je me suis réveillé. J'avais le pied qui avait triplé de volume. J'avais des petites douleurs au niveau du cœur. Mais pour moi, je pensais que c'était plus la panique, le fait de voir le pied qui était très, très gros. Donc, par rapport au cœur, je ne me suis pas posé de questions. Et le lendemain, je suis allé faire des radios. Et ils se sont rendus compte que bah, j'avais tous les os du pied qui étaient entièrement décalcifiés. Donc là, le radiologue m'a pris à part. Enfin, moi, ça m'a fait bizarre parce qu'il m'a dit, mais là, vu l'état de votre pied, je me demande même comment vous avez fait pour marcher et faire du sport pendant ces dernières années, parce que finalement, en fait, ça n'a pas pu arriver comme ça en une nuit, tous mes os du pied se décalcifient, c'était pas possible. Donc, c'est arrivé petit à petit. Donc, j'ai été balancé de chirurgien en chirurgien, de rhumato en rhumato, à chaque fois, c'était les mêmes discours, et ça faisait mal, le fait de me dire que, enfin, qu'ils me disent, oui, bah, le sport maintenant, c'est fini pour vous, alors que ça a été quand même toute ma vie, c'était toute ma passion. Donc ça m'a mis un gros coup au moral. Une nuit, c'était donc la nuit du 31 décembre au 1er janvier, c'est facile à retenir comme date, je me suis réveillé j'avais très très mal au niveau de la poitrine, je sentais mon cœur qui se compressait. Pour moi, enfin, j'étais, ah, mais c'est pas possible, ça fait comme des signes d'infarctus dans les films ou ce qu'on nous explique quand on a des cours sur le secourisme. En fait, je sentais plus mon bras gauche et j'avais le cœur qui se compressait de plus en plus, j'avais plus de mal à respirer et puis à me décontracter. Donc je me suis dit bon bah je vais essayer de me calmer. Dans la soirée j'avais joué un peu, on avait fait des jeux, on avait joué à la Wii, enfin des choses comme ça. Je me suis dit ouais, je me suis peut-être fait une contracture, un truc comme ça. Je vais me prendre une douche, ça passait pas. Je me prends un bain, ça passe pas. Puis c'était de pire en pire. Donc avec mon ex, on a appelé le SAMU. Le SAMU, eux, ils étaient bah, dans cette nuit-là, ils ont un peu trop d'interventions un peu partout, donc du coup, il fallait qu'on aille aux urgences. On allait aux urgences, et là, à ce moment-là, en fait, ils m'ont vu arriver en boitant parce que, bah, vu que j'avais très mal aux pieds aussi, je boitais pas mal. Donc, au départ, ils prenaient pas trop au sérieux, et puis quand on leur a dit que c'était enfin, que j'avais des soucis au niveau du cœur et que je commençais à plus sentir mon bras, là, je suis passé devant tout le monde. Enfin bref, en gros, de cette soirée-là, on s'est rendu compte que, enfin, les médecins m'ont dit que c'était une grosse péricardite. Péricardite, c'est inflammation du péricarde, ce qui englobe en gros le cœur. Sur le moment, en fait, j'ai pas fait, enfin, ni les médecins ni moi, on a fait le rapprochement avec l'infection au niveau du pied parce que j'en ai pas forcément parlé. Puis à un moment, je suis tombé sur une bonne rhumato qui, elle, a fait le lien. Bah avec mes péricardites, parce qu'entre-temps, j'en ai refait d'autres. Entre les péricardites et l'infection au niveau du pied, donc j'ai passé d'autres examens. Et ils se sont rendus compte que, bah, vu que j'avais le pied qui s'infectait, ça infectait le sang aussi. Et vu que le sang était infecté, ça remontait au niveau du cœur. Et c'était ça qui causait un peu les péricardites. Et puis, des semaines se passent. Là, je vois, j'ai rencontré un très bon chirurgien qui est professeur. M'a expliqué, parce que ce qui a été très compliqué pendant plusieurs années, c'est qu'on me balance de chirurgien en chirurgien, médecin en médecin, qu'on mette pas forcément de nom sur tout ce que j'avais. Et puis ce chirurgien-là, en fait, m'a expliqué que il y a des fois on peut pas mettre des noms sur tout. C'est comme ça. Et puis, enfin, je l'ai pris comme ça et je me suis dit oui, bon bah. De toute façon, lui m'expliquait que on pouvait pas attendre plus de 2 ans. Enfin, Enfin, plus de 2 ans, et si mes problèmes au niveau du cœur s'accéléraient, ben, le temps allait se réduire aussi. Donc, fallait que je prenne. Il voulait me laisser le choix, en fait, que la décision vienne de moi, mais au bout d'un moment, j'aurais plus le choix de me faire amputer.
Alors, donc ça, c'est l'amputation. Tous les médecins t'en ont parlé ou c'est uniquement lui?
Il y a des chirurgiens qui me disaient, oui, bah, de toute façon, la solution, c'est l'amputation, mais moi, je suis pas un boucher, je vais pas vous faire ça.
D'accord. Alors que l'autre, il a décidé de te
Alors que
prendre en
l'autre, en
charge.
fait, voilà, il me prenait en charge et il me disait, bon, bah voilà, je pourrais vous réopérer, vous faire ça, mais de toute façon, il va y avoir ça, ça, ça comme complication, et au bout du compte, vous allez arriver quand même à l'amputation. Donc c'est
Ok.
à vous de voir. Vous pouvez rencontrer des personnes amputées pour essayer de vous renseigner, savoir ce qu'il y a, parce que Il y a les risques des douleurs fantômes, enfin, et puis de d'autres douleurs. Il y a des personnes qui acceptent pas du tout l'amputation et qui ont beaucoup de mal après à côté. Et moi, en fait, j'ai de la chance dans mon entourage d'avoir Marie-Amélie Le Fur. C'est une, enfin, si tu connais pas, c'est
Si,
une
si,
très
mais
grande athlète française paralympique, multimédaillée, et maintenant c'est la présidente du comité paralympique.
ouais.
Et en fait, le fait de l'avoir, elle et Mathieu, son mari, dans mon entourage, ça m'a permis d'échanger quand même pas mal avec eux, que ce soit avec elle comme avec lui, parce que je voulais aussi avoir son point de vue de lui, le fait d'être avec une personne amputée, parce que c'est important aussi. Enfin voilà, j'ai beaucoup dialogué avec eux. Elle m'a orienté aussi vers une ou deux personnes qui étaient amputées pour que je me renseigne aussi, parce que chaque cas d'amputation est différent. Il y en a que ça va être dû à une maladie, d'autres ça va être dû à un accident. Enfin voilà. Donc c'était bien de savoir un peu tout ce qu'il y avait, de voir que elle pouvait faire plein de choses à côté, alors que moi je pouvais plus rien faire.
Oui, c'est ça,
Aller
pendant cette période-là, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que toute cette période-là où tu as des soucis et où tu passes de médecin en médecin, en attendant, bah, au niveau sport, tu es totalement bloqué, je suppose.
Ouais, c'est ça. En fait, déjà pendant un moment, vu qu'ils savaient pas trop où c'était propagé au niveau de, ils voulaient pas prendre de risques. Et donc du coup, j'avais pas le droit de faire des abdos, des pompes. Enfin, voilà, j'avais pas le
Ouais.
droit de faire plein de sports comme ça. Donc à un moment, je me suis mis à la natation. J'en faisais aussi déjà petit. Donc ça m'a fait du bien. Mais rien que le fait de faire des battements, ça me faisait mal aux pieds. Donc
Ouais.
je mettais un pull boy et puis j'en faisais et puis en fait, au fur et à mesure, j'étais quand même très passionné au niveau du sport. Et le fait d'avoir dû arrêter tout d'un coup, j'ai eu une longue période où je pouvais même plus regarder du tennis à la télé.
Ouais, c'était
Regarder
trop
des sports à la
difficile.
télé, c'était trop difficile pour moi parce que je pouvais plus le pratiquer.
Ouais. Est-ce que pour toi l'amputation rimait aussi, mine de rien, avec reprise du sport de façon
Ouais, il y avait
différente?
ça. Il y avait
Ouais.
ça aussi. Il y avait le fait que c'était surtout revivre.
Ouais.
Pour moi, j'espérais en fait à ce moment-là revivre. Dû à cette amputation-là, pouvoir dormir, pouvoir aller me balader plus de 5 minutes, enfin, faire des choses de la vie courante, rien que d'aller faire des courses sans utiliser, parce que pendant toutes ces années-là, j'avais soit une canne, soit deux béquilles. Et donc, ne plus utiliser de canne, pouvoir faire ce que je voulais comme une personne lambda.
Ouais, donc finalement, ouais, ça a probablement aussi joué dans la balance ce que tu disais. Il y a différents cas d'amputation. C'est vrai que lorsque ça survient peut-être après un accident, une vie normale, c'est peut-être plus compliqué. Mais toi, à l'inverse, enfin, du coup, le fait d'avoir cette amputation, ça rimait presque avec ouais, reprise d'une vie normale. D'une vie normale.
C'est ça.
Donc, là, tu finis par prendre cette décision. Et vient le jour, donc si je dis pas de bêtises, ça doit être le 27 ou le 28 novembre 2017.
C'est ça.
Donc c'est vrai qu'en lisant, on voit, tu partages très honnêtement, je pense, les fameux hauts et bas que tu as pu vivre. Mais dès le jour 11, voilà, si je prends l'extrait d'un de tes posts, tu dis par la suite, je veux trouver une motivation supplémentaire, un 10 km, un 20 km, marathon, triathlon, et le meilleur pour la fin, ou tout ça à la fois. Pourquoi c'était important pour toi de te fixer un. Alors, je ne sais pas si tu as réussi à te le fixer tout de suite, cet objectif, ça faisait partie de tes projets, mais est-ce que tu as réussi assez rapidement à te fixer un objectif, et pourquoi c'était important pour toi de te fixer un objectif sportif. Alors peut-être juste dire deux mots sur le fait, est-ce que l'opération s'est bien passée ou pas? Parce que c'est vrai qu'on passe vite à l'étape suivante, mais.
L'opération en elle-même s'est super bien passée. En fait, j'ai eu la chance avant l'amputation d'aller au centre de rééducation d'Issoudun. Il y avait un des médecins rééducateurs qui était vraiment spécialisé en amputation. C'est le docteur Nathalie de Hessel, qui est vraiment top. J'ai eu un très bon contact avec elle. Elle m'a fait visiter le centre et puis elle m'a proposé en fait de pouvoir me préparer à l'amputation 2 semaines avant l'amputation. Donc, ça a vraiment joué dans la balance. Déjà, le contact que j'ai eu avec elle. Et puis, le fait de pouvoir me préparer avant, elle m'expliquait que c'était pour essayer de limiter les douleurs fantômes au réveil, après l'amputation et que ça se passe le plus facilement possible après. Je me suis fait amputer, le 27 ou le 28 novembre, je sais plus, c'était un mardi, au réveil. je voulais absolument voir ma jambe. Donc, j'étais dans la salle de réveil et on a un drap au départ dessus. Et je voulais absolument voir ma jambe. C'était une obligation pour moi. Les infirmières me disent non, 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 il faut y aller progressivement. Moi, j'étais ah, non, non, mais si, je veux la voir. Donc, j'arrache le drap. Parce qu'en plus, on est bien emmitouflé dedans pour éviter qu'on bouge de trop. Sauf que moi, je les ai, enfin, même si j'étais fatigué, je les ai arrachés. Je voulais absolument voir la jambe. Et donc, j'ai vu la jambe. Et là, hop, c'est bon. Je l'ai vue. Et après, je me suis dit, il faut que je continue à la regarder pour que je l'accepte le plus vite possible. Et pour moi, en plus de ça, en fait, ce qui m'a fait bizarre, c'est que juste avant, j'avais le drap dessus et j'avais plus aucune douleur. Donc pour moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils m'ont pas. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait à ma jambe? J'ai plus de douleur du tout. Et je me sentais bien détendu. Et après, j'ai vu ma jambe et là, ça allait, j'étais rassuré. Et ouais, ça faisait 8-10 ans que je m'étais jamais senti aussi bien physiquement. Au niveau des douleurs,
La morphine,
la
non?
nuit qui a. Comment?
C'était pas la morphine?
Non, non, oui, d'un côté, il y avait la morphine, mais en même temps, pendant plusieurs années, j'ai eu des médocs très, très lourds, dont de la morphine. Et je savais que là, ce n'était pas dû aux médicaments, parce que enfin, ce qui me mettait, ça allait, j'étais déjà habitué à ça. Et là, j'étais vraiment soulagé. Et la première nuit que j'ai passée, ça faisait 10 ans que je n'avais pas dormi aussi bien. J'ai fait une nuit d'une traite, j'avais pas de douleur. Même il venait régulièrement dans la chambre, il se demandait pourquoi j'appuyais pas. D'habitude, on appelle pour des douleurs ou des choses comme ça. Moi, j'appelais pas pour ça parce que ça allait en fait.
Ouais, génial. Donc en fait, assez rapidement, tu dis, t'es passé, je pense, ouais, t'as envie de passer à l'action, de
Ouais,
passer
c'est ça.
l'acceptation à la prochaine étape. Et donc, bah, ça explique aussi peut-être ce fameux jour 11 où tu as envie de faire un triathlon, un marathon. Et enfin, c'est beaucoup quand même.
Ouais, bah après, je pense que
T'avais besoin de ça?
faut toujours se mettre des objectifs. Enfin,
Ouais.
je vois mon père, il a terminé au plus haut dans sa carrière au niveau des échelons parce que pour lui, c'était plus un objectif, le petit challenge. Enfin, je trouve ça bien de se mettre des challenges et puis ça nous fait avancer en même temps.
Ah
Il
ouais.
faut toujours se mettre un boost, que ce soit, enfin, pour moi, déjà, mon premier objectif, c'était pouvoir remarcher correctement et plus avoir de douleur. Donc, plus avoir de douleur, c'était déjà fait. Bon, après, j'en ai quand même eu comme tout le monde, mais c'était tellement petit par rapport à ce que j'avais pendant toutes ces années que finalement, ça passait au-dessus.
Ouais.
Après, j'avais un très bon traitement, un très bon suivi aussi à côté, donc ça s'est fait tout seul. Le suivi psychologique qui a fait vraiment beaucoup. Et le fait d'être en confiance avec mon kiné aussi. Donc après, même pendant les séances de kiné, il savait comment ça fonctionnait, et il mettait des challenges. Avec Mélanie qui était la personne qui nous fait faire le sport, c'est la coach sportive en gros au niveau de la rééducation. Et même elle me mettait des petits challenges, essaye de faire ça ou ça. Enfin,
Elle avait compris que c'était ton mode de fonctionnement.
Voilà, pour moi, c'était important. Enfin, là, mon kiné, Didier, même pour lui, c'était physique parce que, il transpirait en même temps que moi parce qu'il en rajoutait un peu au-dessus, mais lui, en même temps, ça le boostait un peu aussi. Enfin, pour moi, c'était top.
Ouais.
Cette relation qu'on avait, c'était vraiment top. Et donc, même si j'avais ces objectifs-là, mon entourage et les soignants me calmaient quand même par rapport à ça en me disant chaque chose en son temps, faut y aller progressivement. Oui, on espère que tu vas recourir à un moment, mais te mets pas non plus des trop gros objectifs. Ma mère surtout, elle était là, non mais un marathon quand même pas.
Ouais.
Voilà. Donc pour l'instant, j'y suis pas. Je recours. J'ai eu quelques soucis au niveau du moignon. C'est tout un réglage avec les prothésistes. C'est pareil, je suis tombé sur une équipe qui est top. En fait, c'est vraiment, c'est un peu comme une Formule 1, on va dire. Il y a besoin de petits réglages tout petits minutieux. Pour l'instant, je suis une 4L, on va dire. Et puis, petit à petit, le but, c'est d'augmenter et que physiquement ça aille de mieux en mieux et qu'au niveau des réglages de la prothèse, en fait, que ça roule tout seul.
Au bout de combien de temps tu réussis à remarcher?
J'ai pu remarcher, il me semble, au bout de 3 semaines à peine.
Ok.
En fait, ça allait très très vite. Et puis pour moi, le but c'était de péter les records du centre de rééducation, de sortir le plus rapidement possible parce que bah, j'étais à 1h30, 2 heures de route. J'avais envie de sortir aussi rapidement, même si je pouvais sortir un peu le week-end. Mais pour moi, le but c'était de sortir rapidement et puis pouvoir faire plein de choses rapidement. Sauf que bah, ça a lâché. On a essayé de trouver des solutions sans passer par l'opération. Enfin, ils ne m'en parlaient pas, mais je m'en doutais quand même. On a essayé de trouver des solutions en changeant un peu la prothèse, en faisant des moulages différents. Le but, c'était d'essayer de soulager la douleur et que ça passe au bout d'un moment. Sauf que ce n'est pas passé. Et donc, il a fallu que je retourne voir le chirurgien qui m'avait opéré. Et donc, oui, le muscle avait bien lâché. Et donc, la seule solution, là, c'était une nouvelle amputation. Donc, l'amputation, là, c'était couper 3 cm.
Ouais.
Donc, c'était rien, mais il fallait quand même me faire réamputer.
Et donc, rééduquer derrière.
Et donc, rééduquer derrière. Donc, à ce moment-là, là, ça m'a mis vraiment un gros coup au moral.
Ouais.
Parce que depuis petit, en fait, bah, je me suis fait opérer petit. À chaque fois, mon entourage m'a aidé. Et puis moi, je me suis reboosté. Je suis repassé au-dessus. Après, j'ai eu mes autres soucis de santé. Je suis repassé au-dessus. À chaque fois, j'essayais de passer au-dessus. Et puis là, à ce moment-là, en fait, je me suis dit, bah mince, je me suis fait amputer. Ça allait mieux. Et puis là, j'ai encore une boulette. Enfin, tout me retombe dessus.
Ouais,
donc ça allait. J'étais quand même.
Une sensation de laissez-moi tranquille, quoi.
Ouais, c'est exactement ça.
Ouais.
Mais comme je le dis depuis tout à l'heure, j'ai eu la chance d'être vraiment bien entouré, que ce soit avec mes proches ou que ce soit avec toute l'équipe du centre de rééducation, où en fait j'étais vraiment bien pris en charge. Ils ont essayé de tout faire pour que ça se passe du mieux possible. Même avec tous les soignants, les patients avec qui j'étais à ce moment-là, en fait, il y avait une sorte d'entraide entre nous. On se reboostait. Enfin.
Ouais.
Ça c'était vraiment top, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis donc je me suis fait opérer il me semble le 21 mars 2018.
Ouais, donc 5 mois après. D'accord.
C'est ça. Donc après par contre là la consigne c'était au niveau de la rééducation, c'était d'y aller beaucoup plus doucement.
Et t'as réussi à gérer ça ta patience.
Donc là, c'était apprendre la patience. Enfin, voilà, c'était ça. J'aimais bien que ça aille vite. Et puis là, il a fallu que je sois patient. J'ai été patient 10 ans. Je pouvais être patient encore quelques mois, même si là, c'était vraiment difficile parce que je voyais le bout du tunnel.
Ouais.
Et d'ailleurs, à ce moment-là, en fait, j'avais vu au départ le... Non, j'ai lu le livre de Grand Corps Malade qui s'appelle Patient sur... C'est romancé un peu sur sa vie parce qu'il ne dit pas son nom dedans. Donc, il y a des choses qui ne sont pas vraiment passées comme ça, mais c'est un peu une autobiographie. Et j'ai vu aussi son film et ça m'a vraiment aidé parce que à la base, j'écoutais un peu de Grand Corps Malade. Ses textes, je les trouvais bien. Après, je n'étais pas fan non plus. Je suis devenu vraiment fan à ce moment-là en me disant, bah ouais, ce qu'il écrit, il y a deux chansons d'ailleurs qui sont dans le film Patient qui m'ont vraiment vraiment aidé, qui sont dans le livre aussi où les détails dedans, il y a Sixième Sens et Espoir Adapté, et c'est deux chansons vraiment qui sont sur le handicap et où je me retrouvais en fait dedans, et ça c'était vraiment top.
Donc ça t'a aidé et patient, et puis du coup c'est bien
ça m'a aidé à être patient et ouais. À être patient encore quelques mois, et je suis sorti fin septembre il me semble.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Ton envie de frénétique de sport, est-ce que tu es toujours à ce moment-là dans une démarche de dire je suis patient, ou est-ce que tu peux commencer à reprendre une activité, et à quel moment tu reprends une activité? Comment tu gères cette, du coup, je suppose, cette impatience de plus en plus,
Bah, déjà, ce qui a été bien, c'est qu'au niveau du centre, c'est monté crescendo. Donc. J'avais de plus en plus d'exercices, je pouvais marcher de plus en plus. Ils m'ont fait faire, en fait, je suis allé avec eux faire des essais de lame de course, alors que je n'étais pas encore sorti du centre de rééducation. Donc ça a été top, c'était magique. Donc je suis allé par le biais de mon prothésiste. On est allé à une journée, c'était à Rennes. C'est une journée qu'ils ont.
Alors excuse-moi, juste la lame, c'est très adapté au sport ou tu peux potentiellement t'en servir pour d'autres choses ou c'est vraiment spécifique justement à la course?
Alors, il y a différentes sortes de lames, mais là, moi, les lames que j'avais testées, c'était vraiment pour la course.
D'accord, okay.
On va dire, ils disent que c'est multisport, où tu vas pouvoir faire un peu de.
Ok, mais c'était quand
un
même.
Un peu de sport où tu cours, mais c'est quand même limité parce que pour aller sur la gauche, sur la droite, en fait, il y a trop de rebondis pour pouvoir faire des changements de côté, enfin, rapides.
Ok, donc mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est que tu as d'un côté une prothèse qui te permet de vivre dans la vie de tous les jours, de l'autre côté, une lame dont l'objectif, c'est de te permettre de courir. Et donc, pendant la rééducation, on te donne déjà ce goût de tu vas pouvoir reprendre le sport, quoi. Ça a été presque une carotte pendant cette période, quoi, d'avoir
c'était
un
ça,
objectif.
Déjà, à ce moment-là, c'était le jour de mon anniversaire. Ma sœur avait lancé la cagnotte. Elle avait lancé une cagnotte par le biais de ma page Facebook et puis un peu sur tous les réseaux sociaux. En gros, c'était où elle racontait un peu mon histoire et que le but pour moi, c'était de recourir à un moment. Et le fait d'avoir lancé cette cagnotte, c'était de trouver des sous pour pouvoir m'acheter une lame. Parce qu'une lame, ça peut varier entre 5 et 15 000 euros.
La vache.
Ça coûte très cher. Et les emboîtures, en fait, que l'on change régulièrement, c'est 2 000 euros une emboîture. Donc, à ce moment-là, en fait, j'avais pas d'aide par rapport à tout ça. C'est pas remboursé par la Sécu. Et donc, il fallait trouver un moyen pour ça. Donc, elle a lancé une cagnotte à ce moment-là.
Ok.
Et donc, par le biais de ces réseaux sociaux-là, la cagnotte est montée. Et à côté de ça, en fait, il y a Aussure, qui est une des plus grosses marques au niveau des pieds et des lames de course, est tombée sur ma page et trouvait ça bien le fait que je puisse partager comme ça au niveau de ma vie et d'échanger avec d'autres personnes qui avaient un handicap aussi. Ça les intéressait et eux, en fait, m'ont proposé de devenir ambassadeur. J'étais pas sponsorisé, mais être ambassadeur, ça me permettait d'avoir une lame de course. Et sans. Après, en fait, j'avais la lame, mais il fallait que je trouve le financement aussi pour les emboîtures.
Ok.
Donc,
j'ai quand même une bonne part de. Une bonne
très, part très, très bonne. Voilà, c'était une très, très bonne part. Et mon médecin du centre de rééducation, le docteur de SL, elle connaît très bien aussi les personnes d'Aussure. Et elle s'entend très bien aussi avec mes prothésistes. Donc, elle, c'est pareil, à chaque fois, elle joue un peu du charme avec eux. Enfin, elle leur fait un peu de charme ou elle leur laisse pas le choix. Enfin, ça dépend. Ou elle leur dit, là, il va avoir la lame. Vous pourriez peut-être faire un effort et puis lui donner une emboîture. Et donc, ça s'est joué comme ça. En fait, j'ai eu aussi l'emboîture après avec. La cagnotte m'a permis de m'acheter du matériel qui allait avec. Donc, les manchons, enfin...
Ouais.
Du matériel qui était en rapport en fait avec ça. Et donc, c'est pour ça que je dis depuis le départ que j'ai de la chance vraiment d'être bien entouré, que ce soit au niveau des soignants ou vraiment toute l'équipe du centre de rééducation là-bas ou au niveau de ma famille parce qu'ils sont vraiment bougés à côté.
Ouais, après,
sans que je le demande et des fois je me demandais pourquoi en fait.
Mais parce qu'on attire aussi, on attire ce qu'on est. Hein, pour... c'est. Ça, c'est encore un
mais ouais, ça, enfin, il y a des fois, c'était gênant et en même temps, c'était émouvant aussi. Enfin,
ouais, c'est ça. Le jour où cette fameuse lame, donc, t'arrives à récupérer les différentes pièces, la première fois que tu la mets et que je suppose que
alors,
tu
quand,
vas courir avec.
Quand je la mets, en fait, c'est pas ma lame définitive. C'était des essais de lame ce jour-là. Mais en fait, je retrouve un peu les mêmes sensations que le premier jour où j'ai remarché. En fait, dès le départ, les prothésistes me disent « Bon, tu vas vraiment tranquille, on va te montrer les gestes. » Puis moi, en fait, j'ai mis la prothèse et j'ai commencé à courir d'un coup. Et il y a un des prothésistes qui a dû me suivre parce que, en fait, il ne s'attendait pas à ce que je commence à courir comme ça. sachant qu'en plus, quand on a une lame, on est propulsé vers l'avant, mais pour t'arrêter, c'est plus compliqué. Et donc, du coup, je commence à courir. J'ai des douleurs, mais là, je m'en fous complètement. Je suis trop content. Ça faisait 10 ans que j'attendais ça, de pouvoir recourir de nouveau. C'était une joie, c'était impressionnant. J'avais les larmes au bord des yeux, mais j'essayais de les ravaler un peu et je voulais pas montrer, mais ouais, j'étais vraiment content. Et puis, je me lance sur un tour et je m'arrête au milieu parce que j'avais les jambes sciées. En même temps, ça faisait 10 ans que j'avais pas couru, donc le geste, je le connaissais pas. J'avais le lactique dans les jambes, j'en pouvais plus. Enfin, mince, ça va être difficile quand même. Le marathon, ça va pas être pour tout de suite.
Maman avait peut-être raison de me calmer.
Ouais, c'est ça. Et puis toute la journée, en fait, j'ai couru toute la journée sur plein d'exercices différents. Et puis je voulais absolument recourir. C'est les prothésistes qui m'ont dit à un moment, bon, allez, stop. Vaut mieux t'arrêter quand même. Et puis là, je reste encore un mois au centre de rééducation. Et une semaine avant ma sortie, j'ai de nouveaux tests avec une autre marque de prothèses. Et là, vu que c'est pas loin de chez moi, en fait, mes parents, ma sœur, mes nièces viennent me voir. Donc j'y vais avec la coach sportive du centre de rééducation. Il y avait le médecin du centre de rééducation. Ils étaient plusieurs. Et puis là, c'était top parce que je le partageais avec les personnes qui m'ont entouré pendant plusieurs mois. Donc là, j'étais beaucoup plus à l'aise dans la course parce qu'en même temps, j'avais retravaillé depuis un peu plus physiquement avec Mélanie. Et là, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et puis elle me coachait un peu sur le côté, même si il y avait des personnes qui s'occupaient de la journée. Elle avait un œil sur moi vu qu'elle me connaissait bien. Et puis elle m'orientait un peu plus. Donc là, ça a été une journée qui était top. Et je me suis dit, ouais, là, recourir vraiment, c'est plus faisable.
Ouais, tu tiens un bon bout.
C'est
Ça,
ça.
c'était il y a combien de temps à peu près?
Ça, c'était septembre 2018.
Ok, donc en un an, qu'est-ce que tu as réussi à progressivement, je suppose que tu as pu t'entraîner, tu as pu prendre en main cette
Alors,
lame, quels objectifs, vers quoi tu t'es orienté pour cette reprise que tu suppose tu as faite à peu près en douceur malgré l'impatience?
ouais. en sortant du centre de l'éducation, j'ai pas arrêté de continuer à faire du sport parce que j'ai pas eu la lame tout de suite. Il y avait un certain délai parce qu'ils en donnent que quelques-unes par an et ils en avaient déjà donné en 2018, donc ils pouvaient m'en donner qu'en 2019. Donc j'attendais avec impatience ma lame. À côté, il y avait le docteur de SL qui relançait au sûr dès qu'elle les voyait. Alors où ça en est, c'est bon, ça va vraiment se faire. Et donc j'ai eu le contrat fin décembre 2018. J'ai eu un contrat où là j'ai signé, j'ai envoyé tout de suite les papiers. J'ai eu ma lame début mars. Fin février, début mars 2019. Et donc pendant ce temps-là, je continuais quand même à m'entraîner. Un jour, je tombe sur la page de Marie-Amélie. Elle partageait un événement qui s'appelle La Relève pour 2024, en gros. Et donc dans le descriptif, il est recherché. Des personnes avec un potentiel sur plusieurs sports en vue des Jeux 2024. En gros, c'était pas des sélections, c'est autre chose, c'était des détections. Les sélections, c'est encore autre chose, c'est un niveau au-dessus. Donc là, le but, c'était vraiment de détecter des personnes avec un potentiel et de voir ce qu'ils peuvent faire de ces personnes-là pour les orienter vers le sport où ces personnes-là pourraient être le plus performant. Donc j'en parle à Marie-Amélie et elle en parlant, elle me disait que même si ça faisait que quelques mois que j'étais sorti du centre de rééducation, que je pouvais quand même y aller, comme ça allait me permettre de me rendre compte déjà à quel niveau j'en suis physiquement. Et puis, il y a peut-être des sports au niveau paralympique, même si je ne vise pas forcément les Jeux 2024 à ce moment-là. Il y a peut-être des sports qui pourraient m'intéresser, où je ne suis pas au courant en fait de ça. Et donc, je me présente à cette journée-là. Et donc, c'était plein d'ateliers différents, tests physiques, tests de motricité, des entretiens. Et ça se passe plutôt bien. Il y a plusieurs fédés qui sont intéressés. Et donc, à la fin de cette journée-là, j'ai plein de sports en tête. À la base, je m'étais dit, ça va me permettre de choisir un sport. Et finalement, en fait, vu les résultats que j'avais faits, il y avait plein de sports qui pouvaient s'ouvrir à moi. Donc, j'ai quand même été très bien orienté par l'équipe qui a organisé le programme La Relève. Il y avait Jean Minier qui est à l'origine de ce projet-là, qui m'a vraiment orienté vers les sports que je pouvais faire. Et donc là, à ce moment-là, j'avais vraiment choisi. Je voulais faire vraiment athlétisme, même si dans ma tête, mon premier but c'était de recourir. Mais lui, il me dit, recourir, c'est très bien, tu peux courir à côté, tu peux t'amuser, te mettre des challenges pour un marathon, pour des trucs comme ça. Mais 2024, tu seras peut-être un peu trop vieux pour faire du sprint ou des choses comme ça. Peut-être un niveau France, mais pas si nous, eux, leur but premier, c'est quand même de trouver des personnes qui peuvent accéder aux Jeux 2024, vu que c'est à Paris, d'avoir le plus d'athlètes possible. Et donc, moi, après, j'ai réfléchi un peu à tout ça et je me suis dit, le kayak, ça me plaît, c'est des sports d'eau, j'adore ça. Pourquoi pas du kayak en vitesse sur 200 mètres. Donc là, je fais partie de ce programme-là, du programme La Relève au niveau du kayak. J'ai essayé le volley assis, où en fait, c'est pas assis dans un fauteuil, c'est assis sur le sol. Donc on se déplace vraiment avec les bras et avec une jambe. C'est assez physique. Quand on le voit comme ça et qu'on n'est pas sportif, on se dit oui, c'est pas forcément physique, mais
Ah, mais tu dois être super gainé. Ouais.
dès qu'on le pratique, on se rend compte que bah oui,
Tout ce
faut
qui est
quand
assis, il faut
même.
être super super gainé pour
C'est
réussir à se
ça.
tenir. Ouais, si, si.
Donc du coup, pour l'instant, je fais partie donc de l'équipe de France de volley assis et du programme La Relève au niveau du kayak. Donc l'équipe de France, je viens d'arriver. Donc, pour l'instant, j'ai ma place dans le groupe. Après, on verra pour les grosses compétitions où je me situe dans l'équipe pour voir si je peux y rester ou pas. Et puis, le kayak, mon but, c'est aussi de performer un maximum. Et même si j'ai tout à apprendre, j'essaye de progresser et de m'entraîner physiquement. Et la course à pied, j'abandonne pas. C'est plus difficile parce que j'ai eu quelques soucis au niveau du moignon. Donc, j'ai toujours mon projet en tête de pouvoir faire un marathon un jour, mais je veux pas brûler les étapes et il faut vraiment que mon moignon soit intact
Ouais.
pour y arriver.
Ouais, génial. Bah écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter en tout cas. Peut-être pour résumer tout ce que tu viens de nous dire, on intègre un petit peu. J'ai une petite rubrique à la fin qui s'appelle la rubrique des questions tac au tac. Je vais te poser trois questions. Trois questions, il faut me répondre le plus instinctivement possible. Mais bon, il y en a une que je pourrais caler dedans, mais qui n'en faisait pas partie. Qu'est-ce que le sport a apporté dans cette épreuve, qu'est-ce que ça a représenté le sport pour toi dans cette épreuve d'endurance, hein, mine de rien. Tu parles de marathon, d'en faire un en vrai, mais c'est presque ce que tu as vécu en fait lors de ces dernières années donc.
C'est vrai que, en fait, ce que je trouve beau, c'est que le sport a cette magie de faire oublier les barrières du handicap. On voit finalement plus une personne handicapée, en fait, mais un sportif à part entière qui essaie de se dépasser. Et le handicap, est finalement notre force et le sport, ça nous permet vraiment de nous dépasser par rapport à ça.
Ok, très belle réponse, très belle réponse. Effectivement, toi tu parles de challenge, tu as tout de suite voulu te challenger. Bon bah c'est un moyen aussi de se lancer d'autres challenges un peu plus sympathiques que celui que tu as pu vivre. Pour les questions tac au tac, trois questions. Ton plus beau souvenir sportif depuis cette sortie de rééducation, ou peut-être lors de la sortie rééducation? Lors de la période de rééducation, pardon.
Mon plus beau moment au niveau du. J'en ai eu plusieurs, donc comme la marche, comme la première fois où j'ai marché, la première fois où j'ai couru. Mais on va dire un des plus beaux moments que j'ai vécu, ça a été en fait le dernier jour que j'ai passé au centre de rééducation. Donc, c'est le moment où tu vas dire au revoir un peu à tout le monde. Donc là, j'ai ma dernière séance de kiné avec Didier, mon kiné. Donc, après avoir quasiment passé un an ensemble, en fait, c'est le moment où on se sépare. Et là, lui, il me fait faire un parcours de motricité. Et à la fin, en fait, on faisait des parcours de motricité, mais je devais repérer le parcours de motricité et après le faire les yeux fermés. Donc, je fais le parcours de motricité les yeux fermés. Là, après, il m'oriente, il me dit « va à gauche, va à droite ». Et là, il me dit « maintenant, ouvre les yeux ». Et là, je me retrouve face à la glace, face au miroir. Et lui, il me met la main sur l'épaule. Il était ému, moi aussi. Et il me dit « bon, bah Ben, en montrant le miroir, je te présente le nouveau Ben. T'es arrivé ici cassé moralement, physiquement. En gros, je te résume un peu parce que ses paroles étaient beaucoup plus fortes. Et le moment était vraiment beau. Et donc, c'était… vraiment, ouais, je te montre le nouveau Ben. J'espère que maintenant il est réparé, qu'on a réussi à le réparer. En gros, il me disait qu'il était fier de moi et qu'il était content de m'avoir rencontré, et ainsi de suite. Enfin, c'était vraiment un beau moment. Et on va dire, le deuxième moment fort, ça a été quand j'ai recouru là, dans mon ancienne ville. C'était une course organisée par une copine et c'était ma première course et c'était avec mon père, mon ancien coach, des potes d'enfance. Il y avait toute ma famille qui me regardait à ce moment-là et ça a été un moment très fort. Ma nièce Lysia, elle qui montre jamais ses émotions, en fait elle pleurait du fait de m'avoir vu courir comme ça et c'était vraiment un beau moment.
Ouais, bah c'est ce qui ressort vraiment de l'échange, c'est l'humain en fait. C'est vraiment ce qui est très marquant dans ton témoignage et qui est aussi du coup très 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 touchant. Une chanson qui t'accompagne quand tu fais du sport. Alors, tu m'as parlé de deux chansons de Grand Corps Malade. J'ai noté Sixième Sens et Espoir Adapté.
C'est pas deux musiques qui vont te booster quand tu cours. Hein.
Non, sinon,
quand je cours, ça va plus être Eminem, Lose Yourself. Tu vois, enfin, c'est complètement différent.
Eh bien, écoute, sur les deux, du coup. Pour terminer, peut-être une phrase, une citation, peut-être un extrait de chanson, justement, qui résumerait ton parcours et qui pourrait peut-être inspirer des personnes qui seraient dans ton cas.
Je le dis souvent, je suis fan de Nelson Mandela. Mmh. Dans mes textes, c'est pareil, je mets souvent des citations de Nelson Mandela. Et j'avais vu qu'à un moment, il avait le poème qui se lisait tous les jours en prison, c'était le poème Invictus de William Ernest Henley. Et c'était un poème qui lui a permis de se booster en gros, enfin, de tous les jours, il se le lisait, il se le répétait, et ça lui permettait d'être bien pour lui. Et en fait, cet auteur-là a écrit ce poème Invictus. C'est pareil, il a eu des problèmes à une jambe pendant des années et il s'est fait amputer en fait. La légende dit qu'il a écrit ce texte-là la veille de s'être fait amputer pour parler de ses nombreuses années dans la douleur en fait. Et moi, j'avais repris quelques phrases que je me suis fait tatouer en fait sur le bras. Pas le poème complet, mais quelques phrases, et c'est dans de cruelles circonstances, meurtri par cette existence, je suis debout bien que blessé, je suis le maître de mon âme, je suis le capitaine. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Voilà.
Bah écoute, merci beaucoup pour.
Merci à toi. Hein.
Pour ce témoignage qui, voilà, enfin, il y a trois mots que j'ai notés, moi, c'est ce qui résume un peu, je pense. Tout ce que tu viens de dire, tu parles beaucoup d'entourage, de soutien, et on sent une grande capacité de résilience. Ça a été. J'espère que ça inspirera peut-être des gens qui sont en situation de handicap, qui sont peut-être même dans ta situation. À voir pour vraiment le diffuser largement, mais je pense que c'est vraiment transposable. À plein de cas qu'on peut vivre dans la vie, des moments qui sont compliqués et de se fixer des objectifs. C'est aussi ce que tu as essayé de faire, de toujours être très très bien entouré. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et bon, ça, toi, tu le dis de façon très humble, que tu as eu beaucoup de chance d'être très entouré. Mais je pense que s'il y a quelque chose dont je suis persuadée, c'est qu'on attire on attire ce qu'on est. Donc, c'est que voilà, je pense que tu mérites tout ça largement. Donc, en tout cas, ce que je te souhaite, mais ce que je pense que tous les auditeurs vont te souhaiter, c'est que tout continue de bien se passer, que tu puisses réaliser tes objectifs. N'hésite pas, si tu t'inscris à un semi ou à un marathon, à m'en parler pour que je puisse le partager à la petite communauté de 50 nuances de sport. Et puis, peut-être du coup, suivre tes aventures sur Paris 2024.
Ouais, et merci à toi d'échanger comme ça sur différents parcours de vie. C'est vraiment top et ça inspire, je pense, beaucoup de monde.
C'est vraiment transposable, le sport, voilà. Tu parlais des valeurs, tu as commencé l'interview par les valeurs du sport qui sont... c'est pas juste du sport pour du sport, enfin, ça fait vraiment, je pense, tout ce que tu disais, le côté team, le côté équipe, la capacité de résilience, la capacité de se fixer un objectif, tout ça, on le trouve dans le sport et on peut vraiment l'adapter à tout. Toi, tu l'as adapté à ton parcours, merci vraiment pour cet échange.
Merci à toi.
Je te remercie. Ciao.
Bonne journée.